nous les nantis qui sommes bien assis face à nos écrans, à regarder dans nos actus de 20h, ces hommes désespérés qui n'ont plus rien à perdre, même pas leur vie, qui tentent coûte que coûte de franchir la frontière de ce qu'ils croient l'Eldorado, et que l'on canarde comme du gibier. Ces hommes au visage en pleurs, à vous déchirer le cœur, et que l'on jette en plein désert comme de la vermine. Cachez-moi ce que je ne saurais voir, n'est-ce pas? Quant à ces messieurs du gouvernement marocain, je leur dirais ceci. Il ne suffit pas d'avoir la plus grande brosquée pour être un bon musulman. On l'est par les préceptes du Coran, qui, comme moi, vous le savez, condamnent tout acte que vous avez commis. Et cela en plein mois, Dieu du Ramadan, mois de piété, de charité, d'amour et d'amour de son prochain. Je suis émue. Je voudrais connaître quelle est l'opinion des Marocains face à ces actes, savoir comment ils réagiraient par exemple si de tels actes étaient commis sur leurs compatriotes dans un autre pays, comme par exemple la France. Voilà. Je suis outrée et je suis chagrinée et de ce qui se passe dans ce monde et comment on peut traiter des humains comme du bétail. Voilà. Au revoir et merci, excusez mon émotion. Merci. Au revoir.
L'honneur des Marocaines. L'honneur de cette Marocaine et d'autres femmes marocaines qui, sur le répondeur de la basse, si j'y suis, ont dit leur colère, leur souffrance d'avoir vu ces images et de voir cette situation des réfugiés africains, d'Afrique noire, du Mali, la façon dont ils ont été traités à la frontière espagnole. Beaucoup de messages sur ces images et sur ce thème qui n'est pas si éloigné, vous allez le voir, de notre émission d'aujourd'hui, le deuxième volet de la fracture coloniale. À partir de ce livre qui sort ces jours-ci et qui traite de la société française au prisme de l'héritage colonial. Alors, il y a eu beaucoup de messages aussi sur le mot pique-nique. Je donne l'impression de passer d'un sujet à l'autre, mais j'ai expliqué le sens que pouvait avoir le mot pique-nique. Alors, vous avez été nombreux à réagir là-dessus. Et il y a deux thèses qui s'affrontent sur l'origine du mot pique-nique. Le mot viendrait soit du français qui voudrait dire, bon, piquer, on voit ce que ça veut dire, et nique, qui est une petite chose sans importance. Voilà, et donc pique-niquer, piquer une petite chose sans importance, c'est ce qu'on trouve dans toute une série de dictionnaires, il semble que vous les ayez tous consultés. Mais il y a aussi, et ça selon d'autres auditeurs, une autre origine qui viendrait de l'Oklahoma, selon laquelle ce mot d'origine française aurait été détourné dans le sud des États-Unis, en Louisiane ou ailleurs, où le français était répandu, pour vouloir dire tout à fait autre chose. Le vendredi soir, on sortait dîner à l'extérieur avant de lyncher un nègre. Évidemment, je mets tout ça entre guillemets. Et alors, pique-nique serait la concentration de pick a nigger. Piquer, to pick a nigger, c'est-à-dire embarquer un nègre pour un lynchage. Il y a deux interprétations de ce mot, et voilà, je voulais vous dire ce que vous avez dit sur le répondeur de la basse IGSU au 01 56 40 37 37. Des réactions, quelques-unes, pas toutes, hélas, on n'a pas 3 heures d'émission, à l'émission de vendredi et à beaucoup d'autres choses.
Oui, bonjour. Oui, Daniel, tu parlais de nostalgie, et la nostalgie n'est pas forcément celle que l'on croit, donc par rapport à la colonisation. Pour preuve, mon beau-père a été obligé, bien malgré lui, ça c'est un rappel pour les malgré nous, de faire la guerre d'Algérie. À 74 ans, il rêve encore d'y retourner en Algérie, tellement il a été ébloui par la beauté des gens et du paysage, et enfin, tout ça. Et ça fait bien longtemps que nous l'aurions emmené, mais il y avait les problèmes du GIA. Mais j'espère qu'on va encore y parvenir avant qu'il nous quitte. Je vous embrasse, et j'embrasse, comment tu disais, tous les Français. Oui, tous les Français. Au revoir.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe, j'ai entendu l'émission sur Post-colonisation, j'ai hâte à la semaine prochaine pour qu'il y ait la suite, pour qu'on nous explique quand même que la colonisation, c'est pas fini, hein, que c'est juste un changement de pratique. Sinon, on va quoi ça servirait l'ONC. Hein, c'est vrai que c'est quand même plus facile de vendre des canons, des armes, et d'en être un pays plutôt que de l'occuper militairement. Et puis voilà quoi, on a vidé le terrain, mais c'est pas pour ça qu'on s'est barré pour autant. Hein. La connexion continue, bien sûr, mais elle est financière, elle est dans l'endettement, elle est dans le pillage des ressources, sauf qu'on a adapté la situation. Enfin, vivement la semaine prochaine pour qu'on en parle. Hein. Salut.
J'avais rendez-vous dans un lycée technique cet après-midi, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai vu l'immense majorité des jeunes qui sont là en lycée professionnel, eh ben, c'est des jeunes maghrébins, des jeunes africains. Ça change pas, ça évolue pas. C'est à vomir de voir que c'est comme ça. Et leurs parents, leurs grands-parents se sont fait peut-être déchiqueter sur nos champs de bataille et pour notre liberté. Et c'est comme ça qu'on les récompense, en les laissant sur des voies de garage. C'est vraiment, il y a de quoi devenir fou, quoi. Il y a de quoi devenir fou. Gardons le courage. Merci.
Voilà. Écoutez, je m'appelle Yankel. J'ai écouté l'émission de Fracture coloniale jusqu'à la fin. J'espérais qu'on aurait interviewé quelques anciens colons, comme moi. Et c'est pour ça que je veux mettre mon grain de sel. Ayant vécu en colon de 1949 à 1953 en tant que géologue hydrologue en AOF, à Gao, au ce qu'on appelait le Soudan autrefois, mais qui est Mali aujourd'hui, je pourrais et j'aurais aimé entendre quelques-uns de mes confrères de l'époque, dans ces époques, qui travaillaient pour le ministère de la France d'Outre-mer. Et j'ai pas eu l'impression que nous étions des terreurs, que nous exercions une sorte de terreur sur la population touareg et africaine. Au contraire, nous avons creusé des puits pour les Touaregs qui n'avaient pas la technique pour le faire. Il y a eu pas mal de choses pendant ces quelques années. On a fait la carte géologique avec les moyens du bord. Enfin, j'ai pas l'impression que ce qu'on reproche à la colonisation, et qui est sans doute exact lorsqu'il s'agit d'autres époques, mais pendant ces quelques années où j'y ai vécu et travaillé et souffert, j'ai pas l'impression que la présence française a été absolument négative. Voilà.
Bonjour. Que vos journalistes m'expliquent si le colonialiste était si mauvais que ça, pourquoi tant d'ex-colonisés veulent venir en France. Merci. C'est Antonin de Béziers. Au revoir.
Votre intervenant vendredi a très bien parlé de la colonisation de l'Afrique par la France et la Grande-Bretagne. Mais il a omis quelques petits détails plus récents. Hein? La prétendue décolonisation décrétée par De Gaulle consistant le remplacement des administrateurs français par des autochtones choisis pour leur corruption facile. Deux, le placement de l'Afrique dans le domaine réservé du président de la République et la création de la cellule élyséenne africaine confiée au machiavélique duo Jacques Foccart, Charles Pasqua pour instaurer les réseaux mafieux qui, depuis, polluent son riche pays et spolient ses habitants à nouveau réduits en esclavage. 3. La présence militaire française permanente qui n'a d'autre but que soutenir et maintenir en place les tyrans corrompus qu'on puisse assurer des exactions des fleurons de notre industrie, comme dit Alfandry, et de nos politiquards. C'est pour fuir cette situation qui leur est imposée et tenter de survivre et faire survivre leurs familles et leurs villages que de nombreux Africains, surtout provenant des ex-colonies françaises, cherchent à venir dans cette France présentée comme le paradis terrestre, pays des droits de l'homme. On voit comment les régimes cathos de France et d'Espagne les accueillent. L'immigration ne peut être arrêtée qu'en rendant à ces peuples pressurés la liberté de vivre, selon leurs coutumes, avec les produits de leur agriculture locale non écrasés par les excédents de fabrication frelatée, bradée de nos industries empoisonneuses dites alimentaires. Merci.
Salut, c'est Jean-Pierre Maurice, j'habite les Deux-Sèvres, à côté de Bressuire. Hier soir, j'étais au café, donc repère du petit Clazet, à Bressuire, enfin un petit village côté de Bressuire. J'ai trouvé ça très très sympathique et je voudrais passer mon bonjour à tous les gens qui étaient là. Ce que j'ai trouvé toujours de très sympathique, c'est qu'il y avait toutes les tranches d'âge. Il y avait à côté de moi, j'avais des jeunes, en face des moins jeunes, à gauche des très jeunes et puis des très vieux. Et puis il y avait une communauté, puis il n'y avait pas de donneur de leçons et puis c'était sympa. Et puis voilà, j'espère que ça continuera. Salut.
Oui, bonjour, eh bien c'est Dolores, j'appelle pour signaler que il y aura une rencontre des amis de là-bas si j'y suis, le lundi 24 octobre au café La Pleine Lune à Montpellier qui se trouve 26 rue du Faubourg Figuerolles et ça sera à 20h. Nous nous réunirons donc les 3e et 1er lundi de chaque mois. Voilà, à bientôt, au revoir.
Bonjour, c'est Isabelle, la patronne du repère de la Basse-Égypte de Bouxurul. Donc voilà, on est au moins entre... Nous sommes 23, me dit-on, nous sommes dans le repère. Il y a des gens de Nancy, il y a des gens de Bouxurul, il y a des gens des villages. Et on se rencontre et on discute et c'est super, il y a une super ambiance. Et on a décidé qu'on allait remettre ça. Donc ça se passera bien les premiers vendredis et non pas mardis de chaque mois. Voilà, on espère retrouver plein de gens de la Lorraine. Si ça continue comme ça a commencé, ça sera super. À bientôt.
Voilà, écho des repères. Là, c'était à Bouxurul, un village de 150 habitants près de Nancy. D'autres échos. Celui de Montpellier, la pleine lune, et ben voilà, c'est la première, c'est le 24 octobre à 20h. Et là, notre correspondante, donc, c'est Dolores. La pleine lune, c'est 26 rue Faubourg Figuerolles à Montpellier, et puis le prochain, demain, il y a le bar de la pipe à Gémenos, à côté d'Aubagne, ce sera à 19h, le repère des amis de la Basse-Égypte suisse, et des bistrots, des lieux que vous trouvez, et où vous retrouvez entre auditeurs de France Inter et de la Basse-Égypte suisse. Il y en a toute une flopée, comme ça, on a des échos, c'est très amusant, c'est très intéressant, on va voir ce que ça va devenir, en tout cas, pour l'instant, on part dans la fracture coloniale.
Bienvenue dans le département des Hauts-de-Seine. Vous allez dans quelques instants devenir citoyen français.
L'enfant
indigène apprend à travailler et à s'instruire. On lui apprend aussi à s'amuser selon des conceptions plus saines. La tâche n'est pas facile, car l'instinct est profond. Au premier relâchement de l'éducateur, les souvenirs encore tout récents de la vie primitive reprennent le dessus. La gymnastique rythmique redevient la danse obsédante de la brousse.
Donc on est les indigènes du Nord, on est là tous ensemble avec les indigènes nationaux pour dénoncer les discriminations dont sont victimes les enfants issus de la colonisation.
Là-bas, si j'y suis, avec Pascal Blanchard, Dominique Vidal, Suzanne Citron, Ronny Broman, la fracture coloniale.
Flight number 2, arriving from New York.
Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs ont glissé sur leurs fleuves des chargements de coton sans espoir de vêtements, des chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, des chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon, des chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales. Demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France, mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine. La ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France.
Il y a un moment pour se révolter, sans attendre que le sang ne tiédisse, sans attendre la fin de la bataille, au chaud, à l'abri ou en haut du mirador. Il y a un moment pour se révolter. Pas d'indignation rétrospective, disions-nous, vendredi, en abordant ce thème de la fracture coloniale. Et pourquoi dire aujourd'hui, il y a un moment pour se révolter. La voix qu'on vient d'entendre est celle de René Vautier, du cinéaste, documentariste René Vautier. Et ce film, qu'il illustre de sa voix, a été tourné en 1950, à la demande de la Ligue de l'Enseignement. S'il y eut un colonialisme, s'il y eut une colonisation, s'il y eut des colons, et on vient d'entendre un auditeur qui se présente comme tel, eh bien il y eut aussi de l'anticolonialisme et des anticolonialistes. Oh là, pas beaucoup, mais il y en eut. Et s'il s'agissait de parler de l'honneur de la France, s'il s'agissait de dire que parler de la colonisation, critiquer la colonisation ne relève pas de l'anti-France, on pourrait dire que des gens comme René Vautier font partie de ceux qui ont sauvé l'honneur de ce pays. Et ce que je vous dis est tellement vrai qu'il a eu la surprise il y a quelques années de découvrir que son film figurait dans les programmes de cinéma sur la colonisation dans un certain nombre d'ambassades. Aujourd'hui, ce film évidemment interdit, ce film plus qu'hérétique, ce film contre, fait partie du patrimoine et de la réflexion sur l'époque coloniale. Une époque coloniale que la France et les Français ont mis très longtemps à assumer, à regarder en face, pendant plus de 30 années après les décolonisations, après le début des années 60. Ça a été un refoulement, une dénégation. Si bien que le retard accumulé a favorisé les replis identitaires et donné le sentiment que cette histoire est à bout et refoulée et n'est pas enseignée. Et les poussées de mémoire auxquelles on assiste sporadiquement sont évidemment liées avec la crise sociale, avec la fracture sociale. Entre fracture sociale et fracture coloniale, il y a un effet de l'un à l'autre. On a évoqué ce mouvement des indigènes de la République. Nous sommes des indigènes de la République. Ces jeunes militants, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui au printemps dernier ont manifesté sur Internet, à travers des textes, des tracts et des présents dans des manifestations pour dire nous sommes des indigènes de la République et rien n'a changé depuis la colonisation. Bien sûr que c'était une provocation, beaucoup de choses ont changé depuis la colonisation. Néanmoins, nous sommes dans une France post-coloniale et c'est ce concept de France post-coloniale que les auteurs de ce bouquin, dont Pascal Blanchard, dont Nicolas Bancel, dont Sandrine Lemaire, veulent faire le concept de ce livre. Nous vivons dans une France post-coloniale. Autour de ces trois auteurs, beaucoup de contributions, dont celle de Dominique Vidal, que vous connaissez, qui est l'auteur du malaise arabe aux éditions Agon, qui est un livre qui traite du même sujet, mais dans le monde, entre guillemets, arabe d'aujourd'hui en France, et également Ronnie Broman, ex-président de Médecins Sans Frontières, et puis aussi l'historienne Suzanne Citron, qui a longtemps travaillé sur les mythes nationaux, sur la façon dont s'est construit finalement notre mémoire, ce que nous avons dans la tête et dans le cœur aussi, quand nous disons être français. Ça a été produit par nos livres d'histoire, et nos livres d'histoire ont été produits par une idéologie, par une construction à laquelle elle s'était attaquée, enfin en tant qu'historienne, qu'elle avait essayé de mettre à jour il y a de cela quelques années, mais son travail sur l'identité nationale et sur les mythes nationaux avait fait grand bruit. C'est avec donc Pascal Blanchard, Dominique Vidal et Suzanne Citron, ainsi que Rolly Broman, que nous passons cette heure autour de la fracture coloniale.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, au voilà.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Guanard. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Moi, monsieur, j'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger, et des hippos dans l'Oubangui, autant béni des colonies, entre le Chine et le tennis. Les réceptions et le pastis, on se serait cru au paradis, autant béni des colonies.
Alors, je ne sais pas si Sardou a été heureux en voyant cette loi qui a été adoptée au début de cette année, par laquelle on fait de la colonisation, somme toute, un bilan globalement positif, et par laquelle on fait ordre finalement aux enseignants d'enseigner l'histoire coloniale sous cet angle d'un bilan globalement positif, qui évidemment a valu à beaucoup d'historiens, un certain nombre d'historiens, pas tous d'ailleurs, des colères, des rages et des protestations. Et c'est évidemment quelque chose qui est présent dans ce livre. C'est l'un des motifs de ce livre, La fracture coloniale, qui sort donc, comme je disais, à la découverte. Je parlais aussi de notre identité nationale. Il se pourrait bien que nous ne soyons pas ce que nous croyons. Après tout, qui sommes-nous, nous autres, les Français? Nos ancêtres étaient des Gaulois, c'est bien sûr. Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers, c'est évident. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, ça on est absolument certain. D'ailleurs, quand on était gosse, on ajoutait que son fils Léon lui a crevé le bidon. Ça, c'était sûr également, sûr jusqu'à un certain point. Suzanne Citron.
L'histoire de France telle qu'elle s'est cristallisée dans les manuels primaires de la Troisième République, mais aussi de la Quatrième, et finalement, en dépit des changements qu'il y a pu y avoir dans la tête des Français, c'est l'histoire d'une France qui aurait toujours existé et qui existe en filigrane depuis des origines qu'on ne peut même pas déterminer, puisque la Gaule n'a pas de commencement, elle est toujours postulée comme existante. Ensuite, avec une série de mythes qui justement concernent notamment les enfants d'immigrés, qui sont le mythe de Charles Martel défendant la France à Poitiers alors que la France n'existe pas en 732, les croisades dans lesquelles on occulte complètement le saccage des villages syriens par telle ou telle croisade. Et puis les occultations de faits positifs comme de faits négatifs. Et je crois que par rapport à ces bribes de savoir qui circulent dans la société, une reconstruction autre du passé serait extrêmement importante. Par exemple, dans la mesure où on occulte complètement que la France commence avec l'annexion du comté de Toulouse par Saint-Louis, c'est-à-dire au milieu du XIIIe siècle, on occulte complètement le passé de ce midi de la France qui a été de, pendant des siècles, et en particulier à l'époque où l'Espagne était sous domination musulmane, d'une richesse interculturelle qu'il ne faut pas non plus mythifier, mais qui était tout à fait réelle, avec ce qui s'appelait à l'époque la convivencia, où coexistaient des juifs, des musulmans et des chrétiens, et où d'ailleurs la connaissance de la philosophie grecque est venue aux théologiens chrétiens via les juifs qui traduisaient des textes arabes. Donc ce côté positif du passé qui concerne le présent est ignoré, alors que effectivement c'est absolument incontestable que dans les manuels l'esclavage était ignoré ou était imputé, par exemple encore dans des manuels des années 1970, la traite des Noirs et l'esclavage était imputé aux Espagnols et jamais reconnu comme un phénomène français qui a enrichi Nantes, etc. Donc c'est, enfin moi ce que je revendique ou ce que j'espère à partir des problèmes qui sont soulevés par l'équipe de Pascal, Nicolas et Sandrine, c'est que enfin, les résistances qui existent en particulier dans les milieux universitaires, pour des raisons que je peux ensuite développer, et que le non-débat sur toute notre historiographie construite par la Troisième République, que ce non-débat soit vraiment mis en question.
À ce micro, j'ai reçu une historienne israélienne qui s'appelle Idit Zertal, ou bien je pense aussi à Marc Féraud, qui d'ailleurs intervient dans votre bouquin La fracture coloniale, qui l'un et l'autre d'une façon à peine différente disent l'histoire est toujours utilisée selon les nécessités du présent. Hein, on regarde toujours, on va fouiller dans l'histoire ce qui est nécessaire au présent, et on assiste bel et bien. J'ai eu des réponses sur le risque de nourrir l'ethnicisation, mais on assiste bel et bien actuellement à une concurrence des mémoires, à une concurrence victimaire, et on peut se demander si votre travail ne va pas nourrir, là encore une fois j'y reviens, cette concurrence des mémoires et cette compétition victimaire. J'aimerais bien que Ronnie Broman parle de ça.
Mais ça tombe très bien parce que justement j'avais envie d'orienter la discussion vers cette question qui me paraît effectivement très importante. Mais auparavant, et d'ailleurs c'est aussi dans le sujet, je voudrais juste donner une toute petite réaction personnelle à ce que vient de dire Suzanne Citron. Moi, je n'ai pas de connaissance des manuels scolaires autres que celles d'un parent d'élève. Je veux dire que je n'ai pas travaillé de façon globale là-dessus. Mais il me semble, et si lorsque je les compare à ce que moi j'ai appris lorsque j'étais élève au lycée, il y a tout de même eu, comme le disait Dominique Vidal, une évolution importante. Et en vous entendant, je me disais qu'il faut quand même distinguer entre les études postcoloniales que les auteurs de ce livre, Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, veulent développer en tout cas à l'échelon universitaire, ce qui me semble être effectivement quelque chose de tout à fait important, et puis également prendre acte du fait que l'histoire coloniale, avec ses versants sombres, dans sa réalité qui n'est certes pas une totalité, car qui peut prétendre rendre compte d'une totalité historique, mais enfin que l'histoire coloniale est tout de même présente dans les manuels scolaires, l'esclavage, les massacres, les croisades, dans ce que moi je connais en tout cas par la partie de ma vie qui est celle de parents d'élèves. Mais je voulais effectivement embrayer sur cette question de la concurrence des mémoires, parce que ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de mémoire, c'est que par définition, ce qui construit une mémoire, ce sont deux figures pratiquement identiques, mais qui se présentent sous des profils distincts, qui sont celles du héros et de la victime. Il n'y a pas de place pour autre chose que des héros et des victimes dans une construction mémorielle. C'est par définition, c'est sa raison d'être même. Bien souvent d'ailleurs, dans le contexte de ces, 20-25 dernières années, c'est une mémoire victimaire, celle qui a pris le relais, par exemple, en France, de la mémoire héroïque de la grande épopée résistentialiste, le peuple français uni dans un commun effort de pourchasser l'envahisseur allemand. Bien, ça a été la grande époque de l'après-guerre, le grand mythe gaullo-communiste.
Oui, enfin, aussi des héros dans les luttes sociales.
Et puis, voilà, le Kamelina, l'orgueil du pays.
Absolument.
Et bien d'autres.
Qui étaient montés sur une table pour mettre la question sur
le tapis. Absolument.
N'oublions jamais.
Au grand bétingue. Et donc, tout cela, ce sont des mémoires héroïques. Maintenant, la position sociale, non pas enviable, mais en tout cas recherchée, pour des raisons qui seraient intéressantes à analyser, c'est la position de victime. Et je pense que ce livre, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pour y revenir, enfin, contrairement aux accusations, en tout cas, certaines accusations qui pourraient être lancées contre lui, a pour mérite justement de s'installer sur un terrain où les figures emblématiques de du héros et de la victime sont mises de côté au profit d'un effort de recherche, de compréhension historique et politique des enjeux, des problèmes, des situations. Et donc, le fait d'aborder ce terrain du post-colonialisme semble être la bonne façon de prendre à bras le corps, de se confronter directement à cette mémoire victimaire, cette mémoire victimo-héroïque, si l'on veut, qui n'a pas d'autre effet que de jeter les unes contre les autres toutes les victimes qui se réclament d'elles. Car une victime est par définition victime de tous et va nécessairement se confronter à une autre victime. Mon sort, mon histoire, mon héritage est plus grave, plus sanglant, plus sombre que le tien. Il a été plus long, il a concerné plus de monde. Oui, mais le mien a été plus, etc. Enfin, on voit la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la Shoah, la mémoire de la colonisation se confronter dans des luttes qui sont d'abord nauséabondes, qui soulèvent le cœur et qui sont, en plus, et c'est peut-être surtout cela qui importe, dangereuses. Et je pense que travailler là-dessus, c'est au contraire surmonter, rassembler des gens dans un effort commun de compréhension et pas de concurrence des douleurs.
Moi j'irais dans le même sens que Rémi Bourman, en prenant le contre-pied de ce que tu disais, Daniel. C'est-à-dire, c'est exactement le fait de taire qui provoque la concurrence des mémoires, alors que le fait de dire aide à comprendre ensemble des mémoires d'ailleurs partagées. Vous vous souvenez très bien que il y a eu cette campagne sur le thème « On peut plus parler de la Shoah dans les lycées ».
Oui, c'est ça, c'est important.
C'était pas complètement faux. Il y avait des problèmes. Alors, il y a une équipe d'enseignants.
C'est typiquement la concurrence du
Voilà. Il y a une équipe d'enseignants, dirigée par Benoît Falaise, si je me souviens bien, qui a fait toute une enquête sur l'Académie de Versailles. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que, au-delà d'un problème ici ou là, le problème global, c'est que les jeunes, notamment les jeunes issus de l'immigration, ne pouvaient plus écouter le cours habituel sur la Shoah, dans la mesure où on ne leur parlait pas, à eux, des horreurs des guerres coloniales. Et c'est une découverte.
Ou bien la traite négrière aussi.
Ou la traite négrière, non, on prend ça. C'est-à-dire, si on tait le passé de souffrance, le passé victimaire d'une partie de la population, évidemment, cette partie-là va chercher à la récupérer contre l'autre partie, par exemple, contre les Juifs qui ont, et à bon droit, la volonté de faire que leur génocide soit un paradigme qui permette de combattre pour l'avenir tous les génocides possibles. Quand on arrive, on en a fait l'expérience avec Leïla Chahine et Michel Warchavski. J'y reviens parce que c'est une expérience pour nous humainement formidable. Ça fait quand même 2 ans qu'on a tourné dans les banlieues. On a vu près de 20 000 jeunes. Qu'est-ce qu'on a vu? Cette question a été souvent soulevée. Et le plus souvent, c'est pas moi qui en parlais, c'est Leïla Chahine, je le précise. Mais quand on dit à un jeune d'origine algérienne, voilà, le génocide des Juifs, voilà ce que c'est. Et le je ne dirais pas le génocide, mais en tout cas les massacres coloniaux, et en particulier les massacres que la colonisation de l'Algérie, dès ses débuts et jusqu'à la fin de la guerre, ont créé, c'est quoi? Et on arrive petit à petit à une réflexion qui nous dit, au fond, dans un cas comme dans l'autre, et sans renvoyer dos à dos, ni mettre sur le même plan les choses, bien sûr que non, mais on arrive à comprendre qu'au fond, la racine dans un cas comme dans l'autre, c'est le racisme le plus brutal, c'est la conviction qu'une race est supérieure aux autres, et cela construit à la fois le racisme antisémite hitlérien, comme le racisme anti-arabe tel qu'il a pu s'exprimer dans les guerres coloniales françaises en Algérie ou ailleurs. Donc, on arrive à faire une réflexion commune autour de ce passé de génocide, de massacre, qui positive une capacité à réfléchir et à agir ensemble. Et je donne, je crois, cet exemple de la possibilité d'un travail de réflexion comparative sur les grands massacres et les génocides à travers l'histoire. Jacques Semlin vient de publier un livre qui s'appelle « Purifier et détruire », qui est un livre tout à fait remarquable, majeur, sur cette question, où il montre bien que le problème n'est plus aujourd'hui de dire « tel massacre n'est qu'un massacre, tel autre est un génocide ». Non, il faut réfléchir sur le processus des massacres et au terme de cette réflexion, dire que l'un peut être à caractère génocidaire ou non. Mais ce qui est important, c'est pourquoi le massacre intervient, quel est le rôle de la guerre, quel est le rôle d'un certain nombre d'idéologies, de propagande, de haine, quel est le rôle des individus mis dans un ordre, organisé pour tuer. Enfin, il y a toute une réflexion qui, à partir de là, est possible et qui est une réflexion universelle et non plus une réflexion communautaire.
Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès.
Film de René Vautier, Afrique 1950, la voix d'un homme en colère, d'un homme indigné, d'un homme révolté. René Vautier, qui, tout jeune cinéaste, en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, va filmer la répression coloniale. Et ce film, longtemps interdit, évidemment, on peut l'imaginer, est aujourd'hui le symbole de cette minorité, archi-minorité d'esprit qui se sont soulevés contre la colonisation. La colonisation, colonialisme, colonie aujourd'hui, c'est un mot péjoratif. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est la marche de la civilisation contre la barbarie. Selon Victor Hugo, voilà ce que disait Victor Hugo. La marche de la civilisation contre la barbarie, c'est pas George Bush qui dit ça. C'est Victor Hugo qui disait ça à la fin du 19e siècle, au moment où la Troisième République, Jules Ferry en tête, se lançait dans la deuxième étape de la colonisation vers l'Afrique noire, vers le Tonkin, comme on disait à l'époque. Mais il se trouvait des esprits, par exemple Clémenceau, pour douter des bienfaits civilisateurs, des bienfaits moraux et des bienfaits envers les valeurs affichées par la République de cette colonisation. Aujourd'hui, la colonisation, la quasi-unanimité est critiquée par les Français, mais on a évoqué cette loi du début de cette année, mais le travail de mémoire, le travail d'histoire est loin d'être entièrement accompli. Les Français ont pris du recul, du retard plus que du recul par rapport à cette époque, d'où ce titre, La fracture coloniale. Quand on dit les Français, les autres pays comparables qui ont colonisé eux aussi ont agi différemment. Pascal Blanchard, comment font les autres?
Comment font les Anglais? Comment font les Hollandais avec leur mémoire coloniale? Parce qu'on a des histoires comparables.
Hollandais et Anglais, c'est pas pareil déjà. Les Hollandais se sont flagellés tout de suite, pour faire très simple. Alors, très très vite, ils ont reconnu dans leur discours, dans leur dialectique, chez les intellectuels, que ils avaient, il y a eu une déclaration très récente d'ailleurs d'un ministre en Hollande, très courageux, un Hollandais en Indonésie, très courageux, qui a fait le débat. Il y a un musée à Amsterdam très très précis sur le thématique. On peut emmener des enfants aujourd'hui, enfin des adolescents, expliquer ce qu'a été l'histoire de la colonisation. Les Hollandais ont très très vite eu un sentiment de flagellation par rapport à ça. Les Anglais ont assumé ce qui était facilement assumable pour eux. Ils n'ont eu aucun problème métaphysique dans leur dialectique coloniale. C'est-à-dire qu'il y a que le français qui se pose un débat de ce qu'il fait aux colonies. Parce que c'est la République. Parce que la République, quand on est le pays des droits de l'homme, quand on a des théories du genre, quand on touche les trois couleurs du drapeau national, on devient un homme libre. C'est jamais, les Anglais n'ont jamais tenu cette thématique-là.
Il n'y avait pas cette métaphysique de la civilisation.
Il n'y avait pas.
Donc c'était plus facile.
Même les Anglais se moquaient de nous en disant le coq français ne sait pas pourquoi il gratte le sable. Et je crois qu'il faut quand même voir cette idée, c'est que nous, on avait cette mythologie d'une colonisation à la fois humaniste, d'un rapport à la République, des valeurs qui partaient outre-mer, de cette France aux 110 millions d'habitants. Tout ça a marqué le corps de la nation. Alors en Angleterre, il y a eu un temps colonial. À un moment, il s'est arrêté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes dans les ghettos londoniens aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à Birmingham. On est tous d'accord. Ce que veut simplement dire, c'est que, par exemple, le débat qui est le nôtre aujourd'hui serait un débat, je dirais, d'intellectuels qui auraient 30 ans de retard en Angleterre. Les Anglais ont eu ce débat il y a 30 ans. C'est-à-dire que la notion d'un... Aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un écrivain postcolonial en Angleterre. C'est d'une telle banalité que plus personne ne le dit.
Les enjeux dans la colonisation n'étaient pas les mêmes.
Ni dans la colonisation, ni dans le postcolonialisme. Et aux États-Unis, vous avez encore d'autres problématiques. Parce que nous, on a du mal à aujourd'hui imaginer la société américaine comme une société postcoloniale. C'en est une. Pas les Philippines, Porto Rico, Hawaï. C'est quelque chose qui trace beaucoup plus qu'on peut l'imaginer aujourd'hui la société américaine. La Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, par exemple. La relation... N'oublions pas que les guerres coloniales au Portugal se sont arrêtées en 75. Donc, dans chaque pays européen, il y a des tramaisons différentes. La France, avec le Japon, est un cas de figure unique au monde. Nous sommes les seuls à avoir colonisé dans un rapport profond entre l'acte colonial et l'identité nationale. Au Japon, ça s'est cristallisé autour de la personnalité de l'empereur, c'est pour ça que ça a été un drame, la fin et la défaite du Japon en 45, mais aussi la fin de l'empire japonais en 45. Et dans notre cas, à nous, cette cristallisation au moment de la 4e République, basculement 5e, de la fin de l'Algérie et de la fin de l'empire, encore que disent certains, il nous reste des confettis, faut pas l'oublier, c'est quand même aussi un cas français ça. Les confettis de l'empire, ça demeure toujours. La France est dans ce rapport aussi à la nation. C'est là où est à l'identité française. C'est pour ça que quelque part, le débat aujourd'hui entre concurrence des victimes, tout ça sont des débats qui existent, mais il y a un débat qui est beaucoup plus profond, qu'on a du mal à imaginer au cœur de la société française. C'est ce que Achille Mbembe dit dans le livre, la République a vraiment un problème avec la différence et la race. Elle a vraiment un problème, c'est qu'elle continue à se positionner aujourd'hui à un enfant, par exemple, issu d'immigration algérienne, comme étant une partie de cette histoire de France, mais du mauvais côté de l'histoire. C'est des Français pourtant. Donc elle n'arrive pas à dire à des Français... Ah oui, mais comme vous êtes descendant d'Algérien, vous êtes en fait plutôt les descendants de Banania que les descendants de Lyautey. Moi, je dénie à la République de me dire descendant de Lyautey. Je ne suis pas le petit-fils du maréchal Lyautey. Je pense que la République, il est temps qu'elle explique à un jeune Africain, par exemple, qu'il n'est pas le petit-fils de Banania. C'est compliqué parce qu'on n'a pas encore compris qu'aujourd'hui, un jeune Black, dans une banlieue, quand il voit une affiche Banania, il pense à son grand-père. C'est inconscient, mais c'est une réalité. Vous et moi, on n'y pense pas. Et là, il y a un débat qui est au cœur même de notre société aujourd'hui, qui concerne même pratiquement pas l'histoire coloniale, qui concerne notre histoire nationale, dans lequel il n'y a pas de... Je donne un exemple qui est très simple. Un jour, quelqu'un me disait, ah oui, la grande exposition coloniale de 1931, 33 millions de visiteurs. Mais je lui dis, monsieur, c'est pas une grande exposition coloniale, c'est la plus grande exposition organisée par la République au XXe siècle. Arrêtez de la regarder comme coloniale. C'est d'abord une exposition de la République, qui est en plus colonial. Maintenant, c'est ça sur lequel il faut que nous réfléchissions. Combien de nos gamins savent, dans 4 doubles pages, que le moment où on a rassemblé le plus de Français, 33 millions au XXe siècle, c'est autour des colonies à Vincennes. Personne. Là, il n'y a pas de page à Emmanuel Scolaire. C'est un lieu de mémoire. C'est la grosse critique que je fais notamment à Nora, d'avoir pratiquement pas tenu compte du champ colonial. Des éléments comme la guerre du Rif qui sont totalement abandonnés, le retour de marchands en 90, ce sont des choses qui ont marqué la société française, qui l'ont marqué en leur cœur. On parle toujours, par exemple, du 7 octobre 61, mais qui se souvient qu'un an avant la guerre d'Algérie, la police française tue 9 Algériens dans les rues de Paris? Personne. C'était le 14 juillet 53. Tout le monde l'a oublié. Ce que je veux dire, c'est que, et il n'y a pas que des éléments chauds, je rappelle aussi ce que j'expliquais aux indigènes autrefois, Paris a aussi été une ville énorme de liberté. Où se croisent Ho Chi Minh, Deng Xiaoping, Chou Enlai, Césaire, Senghor, si ce n'est à Paris, avec Mestalla Hadj. Paris est aussi une ville qui a constitué les nationalistes, des croisements incroyables, qui a donné naissance à un mythe comme Joséphine Baker. Donc il n'y a pas non plus que dans cette histoire coloniale ce que dénonce Van Est, du mal et des ténèbres. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça nous a, nous, je dis bien, constituée, comme ça a constitué un jeune Sénégalais au Sénégal, un jeune Algérien à Alger, ou un jeune Vietnamien aujourd'hui au Vietnam.
Le président de la République, Jacques Chirac, en voyage officiel à Madagascar, a pour la première fois évoqué la répression du soulèvement malgache de 1947. Jamais un président français n'avait reconnu ce massacre, dont le bilan pourrait être de 15 000 morts au moins, 90 000 selon certains historiens.
Il faut avoir conscience du caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial en 1947.
1947, des troupes françaises débarquent dans l'île, colonisée par Gallieni en 1896. Une garnison française a été attaquée par des indépendantistes et des colons français massacrés par une jacquerie de paysans armés de coupe-coupe. 150 à 500 victimes françaises entraîneront des représailles massives. 10 000 à 100 000 malgaches, selon les sources, seront exécutés, civils compris, comme on le voit sur ces rares photos. Seule une minorité d'intellectuels, comme Camus, comprendront ce que cache l'expression « les événements de Madagascar ».
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.
Le mot égalité est une abstraction, c'est une abstraction qui est sur les murs de la République, mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on veut pouvoir en jouir, donc on veut l'égalité concrète, on veut la lutte contre les discriminations, on veut la lutte contre le racisme, on veut la lutte contre le chômage massif, on veut la lutte contre la ghettoisation des populations ici de l'immigration postcoloniale et de toutes les populations pauvres. On n'est pas un mouvement ethnique, on est un mouvement, nous sommes une collectivité politique qui demandons l'égalité.
Point. Le général de Gaulle qui parle.
Que c'est complice.
D'un côté, une repentance, une reconnaissance tardive, évidemment trop tardive, des crimes commis en notre nom à Madagascar en 1947, mais reconnaissance qu'il faut tout de même saluer. Et autre document, ces jeunes Français issus de l'immigration qui demandent l'égalité, qui évoquent la persistance et les séquelles de cette fracture coloniale, de cette mémoire coloniale non assumée, et qui continue de travailler à l'intérieur de notre société et d'amplifier et de se conjuguer avec la fracture sociale, qui est quand même la caractéristique numéro un de notre société, à laquelle vient s'ajouter, que vient renforcer donc cette fracture coloniale. On va finir cette rencontre et ces dialogues avec nos invités, avec Dominique Vidal. Dominique Vidal.
Oui, je voudrais juste reprendre un mot avec lequel je suis pas d'accord, qui a utilisé Pascal. Pour le reste, je partage ce qu'il dit. Je n'aime pas le mot flagellé. C'est pas le problème. Personne ne demande à qui que ce soit de battre sa culpe. Il s'agit de comprendre une histoire et de comprendre en quoi cette histoire nous marque aujourd'hui et comment il faut la surmonter. Ça, c'est très important. Deuxièmement, on n'a pas à se flageller. En tout cas, moi, je ne me flagelle pas, parce qu'on a aussi la République qui a trahi ses valeurs dans la colonisation, mais il y a aussi tous les républicains qui se sont battus contre cette colonisation, qui ont manifesté leur solidarité, de la guerre du Rif jusqu'à la période de la guerre d'Algérie dont j'ai évoqué tout à l'heure.
Et pas que des républicains.
Mais je veux dire, c'est très important. Et enfin, c'est important de comprendre pour aujourd'hui prendre courageusement les mesures qui s'imposent. Je prends qu'un exemple, je ne vais pas développer longuement. Mais il y a depuis 2 ou 3 ans une véritable campagne de diffamation contre les jeunes des banlieues. Je dis, pour résumer, c'est les 3 V, voleur, violeur, voileur. Mais concrètement, rappelez-vous, c'est la campagne sur les violences antisémites. On sait aujourd'hui, la Commission nationale consultative des droits de l'homme nous le dit, que les 2/3 de ces violences antisémites ne sont pas le fait de jeunes ni des banlieues ni issus de l'immigration. C'est la campagne sur les tournantes. Laurent Mucchielli, dans son livre, nous a montré que cette affaire a été complètement monté de manière artificielle qu'il n'y a pas plus de viols collectifs aujourd'hui qu'il y a 30 ans et que les victimes ne sont pas des jeunes musulmanes qui seraient brimées et violentées par de jeunes arabes hétérosexuels et brutaux pour les punir de ne pas être assez musulmanes. Donc je veux dire, on est devant cette campagne aujourd'hui, chaque fois qu'on arrête un terroriste ou un pseudo-terroriste, on a l'impression que tous les jeunes des banlieues font partie de ces réseaux. Mais il y en a combien dans les prisons, suspects ou condamnés? Quelques dizaines, pour des millions et des millions de jeunes issus de l'immigration. Donc, au moins qu'on ne reproduise pas à l'identique ou en pire les campagnes de diffamation raciste qui étaient caractéristiques de la propagande des années 20 ou 30, aujourd'hui, en 2005. Déjà, au lieu de battre sa coulpe, qu'on se batte pour interdire ce genre de comportement.
Voilà, merci à tous, merci à Suzanne Citron, Dominique Vidal qu'on vient d'entendre, Ronnie Broman et Pascal Blanchard. Je rappelle à nouveau le titre de ce bouquin, La fracture coloniale, édition de La Découverte. Concernant les extraits du film de René Vautier, Afrique 50, que Yann Chouquet a dégoté, ben il l'a trouvé sur Internet. Et donc, vous pouvez vous aussi le retrouver. Et là, je découvre un truc assez sympa quand même. À Bamako, au Mali, il existe une statuette en bois qui représente le petit breton à la caméra rouge. Ce petit breton à la caméra rouge, c'est René Vautier. Les repères de la Basse-Égypte suisse. Pour tout savoir sur les repères des amis de la Basse-Égypte suisse, c'est www.radiofrance.fr, chaîne France Inter à la rubrique émission La Basse-Égypte suisse. Technique aujourd'hui, Lydvine Caron et Stéphane De Werner. Réalisation, Yann Chouquet et Raphaël Mouterde. Assistante, Pascal Pascariello. Christophe Imbert s'occupe du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Ainsi finit cette émission modeste et géniale. Réclame.